L'ambassadeur américain, M. Alvin Adams, avec nous aujourd'hui pour parler de lui, pour parler de son pays et surtout pour parler d'une autre. Bienvenue, Bouygues Chagé. Comment allez-vous?
Très bien, Jean. Merci beaucoup.
Monsieur l'ambassadeur, comment vont les relations entre votre pays et mon pays, entre votre gouvernement et notre gouvernement?
Pour répondre, Jean, il faut dire que les relations sont excellentes. C'est excellent à notre optique et je crois que le gouvernement haïtien de la République partage cette vue de nos relations très cordiales. Nous sommes là, engagés tous nos deux dans des dialogues importants sur questions d'aide et sur pas mal d'autres questions, dans le respect mutuel et dans la dignité.
Vous employez curieusement les deux expressions utilisées il y a quelques semaines par le président Aristide quand il voulait définir la qualité des relations entre votre pays et le sien. Est-ce qu'il vous aurait converti?
Pas converti, je suis converti depuis longtemps. Je crois que les relations entre nos deux pays sont établies, sont la base de ce respect et cette dignité. Certainement, quand on prend conscience des élections libres, honnêtes, crédibles et le mandat légitime que ce gouvernement porte. Un mandat approuvé par 65% des électeurs qui ont participé dans ces élections.
Et vous croyez que ce mandat et ce que représente le gouvernement par rapport à ce mandat reçoivent de la part de votre gouvernement compréhension et appui?
Certainement, Jean. La politique que nous avons exprimée à maintes reprises avant les élections ne change pas. La politique est de soutenir le processus correct. Ce qui nous intéresse, c'est ce processus et l'expérience démocratique en Haïti. Je crois que le but de tous nos efforts ici sont d'essayer d'accompagner des Haïtiens eux-mêmes, de répondre à leurs besoins comme ils ont identifié, dans les mesures possibles, avec nos ressources bien limitées, mais quand même à la disposition du gouvernement et des institutions de ce pays, à ce que les institutions démocratiques se profondissent, que l'expérience démocratique se consolidarise.
Vous parlez d'aide, monsieur l'ambassadeur, mais jusqu'à présent, il y a eu quelques déblocages, mais on n'a pas encore eu l'impression. D'ailleurs, le président Aristide lui-même disait que certaines promesses n'ont pas été tenues. On n'a pas encore eu l'impression vraiment de quelque chose qui serait peut-être plus significativement important qu'auparavant.
Auparavant, prenons l'exemple de notre enveloppe d'assistance l'an passé, 1990. Je crois que ça s'est chiffré à un niveau de 54 millions de dollars. La vaste plupart de ce chiffre d'assistance s'est versé au billet des ONG, étant donné la politique que nous avons adoptée envers les gouvernements provisoires et certainement après les événements de novembre 1987. L'enveloppe prévue pour l'an actuel se monte à 84 millions de dollars, donc
il y a une augmentation de 30 millions environ.
Une augmentation très très forte. Et nous sommes avec cette somme d'assistance, une bonne partie est maintenant à la disposition des programmes menés ensemble avec le gouvernement. C'est un changement important. Donc il y a deux volets, une augmentation forte et quoi la reprise des relations d'assistance officielle bilatérale entre les deux gouvernements. Il faut un peu de temps quand même de planifier. C'est une expérience un peu tout à fait nouvelle pour un gouvernement en Haïti d'être en face des bailleurs de fonds qui sont prêts à répondre des relations officielles en ce qui concerne l'assistance. C'est une expérience auquel il faut répondre avec des projets, avec des propositions précises. Et ça prend un peu de temps. Nous avons mis à la disposition, annoncé nos intentions de mettre à la disposition de la République et toutes les institutions cette enveloppe de 84 millions de dollars.
Si vous comprenez bien, ambassadeur, vous sortez là, vous dites que avant l'élection 16 décembre et depuis l'élection novembre 1987, le gouvernement américain était pentade. Le gouvernement américain pat vle by gouvernement provisoire. Yo, une assistance directe. COB, TICOB 54 millions côté baïla, ou te baïo à travers organisation non gouvernementale. Depuis Titi de Montea, ou dit, il y a deux tendances différentes. Quantité l'argent gouvernement américain baïa Haïti a, il a augmenté de 30 millions. Mettez 30 millions en plus. Et puis, ça qui est important, c'est que l'agent ça, un gros parti la donne, c'est l'agent qui a pas la disposition gouvernement même. Donc, politique là, lui-même, il changeait d'après vous. C'est bien ça.
C'est bien ça. Okay. C'est bien ça.
Bon, eh bien, je crois que c'est clair pour nous, mais est-ce que quelque part, 80 et quelques millions, ça y est, pas taka plus? Dans tête où? Est-ce que pas taka plus? Est-ce que Congrès avec le département d'État et puis organisme gouvernemental américain, pas taka fait un petit effort si ouais, ça cap passer dans l'autre pays qu'on connaît, nous, monsieur l'ambassadeur?
Moi, n'exclus la possibilité.
On va dire que ce n'est pas possible.
Non, moi, n'exclus pas
okay.
Cette possibilité. La difficulté est que les élections sont tombées au mi-procès budgétaire. Et nous avons déjà prévu un budget pour 2011, il y a une année, bien avant les élections, bien avant l'expérience démocratique ici en Haïti. Ce que nous avons fait après les élections est un effort énorme, je crois, d'identifier, de tirer au tiroir, de ramasser une bonne enveloppe, de répondre aux événements, aux faits d'une expérience démocratique. On n'exclut pas la possibilité dans le futur, avant notre prochain budget annuel.
91-92.
La possibilité de trouver encore des ressources. Mais ça dépend plutôt des situations ailleurs. La possibilité que les provisions d'assistance pour tel ou tel pays ne peuvent pas
augmenter
ou sont libérées à cause d'une telle ou telle situation. Mais c'est aléatoire, ça dépend.
Et surtout, ça c'est la déveine de notre pays peut-être, à ce point de vue, vous allez être confronté à une situation financière et budgétaire d'après la guerre du Golfe. Ça va coûter cher, ça peut-être.
Oui.
Est-ce que ça ne va pas réduire les possibilités, monsieur l'ambassadeur?
Pas forcément.
Donc il y a quand même de l'espoir.
Mais ce qui est important de garder en tête, et les difficultés budgétaires au sein de notre gouvernement, pas à cause du golf, mais à cause de la situation en général.
La récession, par exemple.
La récession, très important. Nous avons fait des efforts en ce qui concerne Haïti et on peut compter sur encore des efforts supplémentaires. L'essentiel est que nous sommes en train actuellement de planifier un peu les provisions de budget 91-92. Et là, espérons-nous, il y en a encore des ressources et encore un programme d'assistance plus importante. On verra.
Ce qui signifie, si je traduis bien vos propos diplomatiques, qu'il y a déjà une augmentation, il y a un changement de politique, c'est-à-dire un changement de direction, de vision, et il y a des possibilités d'avenir, dans l'immédiat.
Oui.
Très bien. Mais, monsieur l'ambassadeur, ça ne suffit pas. C'est des déclarations de soutien, d'approbation, de réconfort, d'abord au processus démocratique haïtien et à son résultat, et ensuite soutien financier. La première question à propos de soutien financier. Est-ce que en corollaire, le gouvernement des États-Unis n'a pas la possibilité de conseiller, je ne dis pas d'influencer, bien sûr, personne n'osera le dire, les organismes internationaux tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international dans leur politique générale envers notre pays? Est-ce qu'il n'y a pas là la possibilité d'un jeu particulier.
Nous sommes membres, comme pas mal d'autres pays donateurs, ces organisations. Et je crois un des volets de notre diplomatie, d'encourager ces organisations à répondre aux besoins d'Haïti et des autres pays en voie de développement et certainement en voie d'une expérience démocratique. Donc je crois que nous avons déjà déployé des efforts et nous continuerons à le faire. Et je crois qu'on peut penser, à des rencontres sur, sur les besoins d'Haïti dans le futur, avec la participation de la Banque mondiale, le BID, le FMI, pour se pencher sur les besoins.
Et la Banque interaméricaine.
Certainement. Mmh. Et se pencher sur la stratégie économique du gouvernement et les besoins qui découlent un peu de cette stratégie.
Je ne vous ferai pas l'injure, monsieur l'ambassadeur, de vous poser des questions sur les petites frictions qui sont parfois grosses entre un petit pays comme le nôtre et les conditions parfois difficiles, parfois très contraignantes posées par le Fonds monétaire international. Et je vous signale que ces jours-ci, dans l'opinion publique, il y a des réactions en Haïti contre ce que l'on croit être les conditions FMI. Quel est votre sentiment là-dessus comme ambassadeur américain?
On a pas parlé précisément des conditions en ce qui concerne la possibilité d'une assistance des FMI ou du BID ou de la Banque mondiale jusqu'à maintenant. Mais je crois que ces institutions mènent une politique globale. Globale pas qui inclut référence aux points importants qui, à leur avis, et les expériences du monde en ce qui concerne l'économie va dans le sens de bon sens. Donc une politique plutôt libérale, une politique qui exprime le sentiment que la liberté économique, ça veut dire aussi la liberté personnelle. Et donc dans ce sens-là, je crois que ces institutions agissent. Ils agissent dans le sens d'une efficacité. Des institutions officielles, ils agissent pour des équilibres budgétaires.
Mais aussi, hélas, monsieur l'ambassadeur, dans cette perspective-là, d'une économie libérale et de la libéralisation des économies du tiers-monde, il y a, hélas, le côté négatif, c'est le coût social qu'on a vu en République dominicaine et qu'on peut aussi sentir chez nous, monsieur l'ambassadeur.
Hein? Il faut penser à, dans les médias, et des effets à mi-terme et à long terme.
Moyen et long terme.
Moyen et long terme. Peut-être il y a des coûts qu'on n'exclut pas, des coûts sociaux. Mais ce qui est vrai pour l'instant n'est pas forcément vrai pour l'éternité.
Et même pour le moyen terme.
Et même certainement pour le moyen terme. Ce qui est le but, je crois, des points de référence est le bien-être de la masse de la population. On parle, par exemple, des effets inflationnaires. Des dépenses extraordinaires officielles. Et je ne parle pas forcément d'Haïti, mais des
en
autres.
Général.
En général, c'est une vérité économique que les victimes les plus sévèrement touchées par l'inflation, c'est les pauvres qui n'ont pas les moyens de payer les prix pour les commodités qui augmentent à cause d'une pression monétaire et à cause des effets sur la devise. Donc c'est pour penser à long terme, à moyen terme, à leur bien-être qu'on encourage, disons, des équilibres en ce qui concerne la politique en général et économique. Et je crois que ce gouvernement partage un peu ce point de vue.
Vous voulez dire le gouvernement d'Aristide?
Le gouvernement d'Aristide, je n'ose pas parler pour le gouvernement, mais en analysant les déclarations, faites par les ministres, je crois.
Tels que le ministre des Finances et le ministre du Commerce?
Oui, et le président lui-même, on parle d'une politique de bon sens, on parle d'importance d'effectuer des économies dans l'administration et dans le budget. On parle un peu de self-help, disons. C'est tout dans le bon sens, et je crois que c'est des propositions avec lesquelles on peut travailler très, très facilement.
Ce que vous voulez dire là est important, monsieur l'ambassadeur. C'est que les deux points principaux qui sont les deux points de balise du gouvernement d'Aristide, la lutte contre la corruption et la lutte contre la gabegie administrative, c'est pas ? Corruption et coût de la vie, corruption et vie chère, sont selon vous des éléments qui peuvent s'intégrer dans une politique générale que le Fonds monétaire international, les organismes internationaux pourraient accepter.
Oui, absolument. C'est fondamental. Fondamental en ce qui concerne la politique, le bien-être de ce pays. Et c'est une réponse en général de bon sens, n'importe où, dans n'importe quel pays. Mais je vois ici une politique très nette, très claire, REC, en ce qui concerne la corruption, en ce qui concerne l'honnêteté. Et je crois qu'on peut dire, si on veut attacher des adjectifs à ce gouvernement, c'est un gouvernement honnête. C'est un gouvernement de bon volonté, un gouvernement de bon sens, composé de personnes qui apportent à la table des grandes décisions du gouvernement un esprit de résoudre des problèmes.
Pourtant, vous voyez, ça a l'air, sans s'y référer, à un passage d'un article qui est apparu dans le Washington Post il y a quelques jours, le 15 mars, et qui, justement, ironise la volonté du président Aristide de lutter contre la corruption. Jack Anderson dit ceci, on a l'impression que la lutte contre la corruption et la lutte pour la vie chère sont les seuls éléments de sa politique économique, et Anderson a l'air d'ironiser. Voilà que l'ambassadeur américain lui dit combien ces deux éléments s'intègrent dans un cadre général. Ceci me permet, vous me permettez, monsieur l'ambassadeur, de me référer, parallèlement à vos déclarations de soutien et de compréhension du processus démocratique haïtien, à toute une documentation tirée de la presse américaine de ces 3-4 derniers mois et qui nous a un peu inquiétés en Haïti, dans la mesure où des journaux comme le New York Times, le Miami Herald, le Washington Times ou le Washington Post ont insisté sur le côté mauvais garçon qu'était le président Aristide, essayant de lui accrocher au cou une espèce de pancarte qui pourrait devenir une cible, et invitant, d'ailleurs cela a été fait dans un de ses articles, invitant le gouvernement américain à ne pas accorder d'aide et à ne pas faire l'erreur commise par Carter qui a aidé les sandinistes. Il y a toute une campagne qui s'est développée à ce moment-là. Comment voyez-vous ça, monsieur l'ambassadeur?
Je ne vois pas ça comme une campagne menée explicitement contre le gouvernement. Il faut pas oublier que la presse aux États-Unis, c'est une presse tout à fait libre, qu'il écrit ce qu'il veut et qu'il rapporte ce que les gens leur disent. Et donc, certainement, ces genres d'articles sont partagés, peut-être. Il y a dans ces articles des aspects très positifs en ce qui concerne le gouvernement, et peut-être des aspects plus ironiques, si vous voulez. Moi, je n'attache pas tellement d'importance à ces genres d'articles. Ce qui est important, plutôt, est de regarder le temps et la sympathie avec lequel tous les deux gouvernements se regardent, au biais de leurs déclarations, au biais des faits. Donc, la spéculation qu'on peut voir dans la presse aux États-Unis, comme dans la presse haïtienne, par exemple, c'est les opinions, je crois, plutôt privées, personnelles des correspondants, mais quand même qui rapportent ce qu'ils voient ou ce que les gens leur disent. L'essentiel est de ne pas magnifier un peu l'importance de ces articles.
Je vous fais remarquer qu'on n'a pas beaucoup magnifié ici. Moi, j'ai reçu toute cette collection, que j'ai d'ailleurs directement reçue en fax des États-Unis, et j'en ai très peu parlé. Mais on peut être inquiet, monsieur l'ambassadeur. On peut être inquiet. D'autant plus que certains journalistes, Jack Anderson le premier, disent, mezza voce, je tiens mes informations de l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince. Mes articles reflètent le point de vue du State Department. C'est fanfaronnade?
C'est leur propre opinion. Ça ne reflète pas des opinions que moi, je leur donne, autant que je sache, les autres dans les milieux officiels leur ont donné.
Ou du desk officer du bureau Haïti au département d'État.
Certainement pas.
Certainement pas.
Certainement pas. Je crois qu'il y a un courant très positif qui découle de Washington envers Haïti à cause des élections, à cause de l'installation, pour une fois, d'un gouvernement démocratiquement et librement élu.
Monsieur l'ambassadeur, votre position, exprimée aujourd'hui à mon micro, et je crois que mes auditeurs vont apprécier, a-t-elle été toujours la même depuis le 17 décembre ?
Oui, 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 oui.
Sans hésitation.
Oui, sans hésitation. N'oubliez pas que la délégation des observateurs américains qui sont venus en Haïti le 14 décembre pour les élections, je crois, était la première délégation, les premières sources qui ont reconnu la victoire électorale du président Aristide. Vous vous souvenez des déclarations à la presse faites par nos responsables dans la délégation, y inclut Monsieur Aronson.
Mm-hmm.
Je crois que nous étions les premiers étrangers que le président Aristide a reçus vers 8h, je crois, le matin de
le lundi matin. Mais il avait aussi reçu des délégué de l'Organisation des États américains et de l'ONU.
Oui, mais
avant vous.
Peut-être. Mais en ce qui concerne des gouvernements, proprement dit, pas des organismes internationaux.
Monsieur l'ambassadeur, une petite question très, très malicieuse. Il avait reçu, la veille, le dimanche, le jour des élections, avant la clôture du scrutin, il avait reçu des Américains, je ne dis pas lesquels, puisque je ne les sais pas. Mais on a prétendu qu'il avait reçu des Américains ce jour-là, avant la fermeture du scrutin, venus lui dire « Monsieur Aristide, vous avez perdu, reconnaissez votre défaite ». Quel est le bien fondé de pareilles allégations ?
Cette allégation manque aucune fondation, en tant que je sache. Et moi, je menais une petite enquête là-dessus. Je connais les gens ne sont pas les responsables, ne sont pas les officiels. C'est un point, un autre point, et que selon leur déclaration à moi, ils n'ont pas dit ça, pas du tout. Peut-être il s'agit d'une mécompréhension totale de la boute de leur conversation, mais je peux nier totalement le bien fondé de cette allégation.
Encore un journaliste, Lee Hockstader du Washington Post, qui, relatant cette rencontre, a rendu compte de la réaction de ceux qui avaient rencontré celui qui n'était encore qu'un candidat, Jean-Bertrand Aristide. Il dit « He's so anti-American, il est tellement anti-américain ». Est-ce que c'est le sentiment que vous
non,
avez,
je crois
monsieur
pas.
L'ambassadeur ?
Je ne crois pas.
Est-il anti-américain, selon
non,
vous ?
Non, je ne crois pas. Il faut bien, comme le président lui-même a précisé à maintes reprises, il faut distinguer la parole d'un président de la parole, le rhétorique peut-être d'une personne au privé. Et j'accepte les expressions de bonne volonté que le président a exprimées plusieurs fois à mon égard, à l'égard du président Bush et à l'égard du gouvernement des États-Unis. Je ne crois pas que le président Aristide est anti-américain.
C'est formel.
C'est formel, c'est...
Dites-le en créole, monsieur l'ambassadeur. Dites-le en créole. Oui, chagé, bon, on dit chance créole, là. Donc, ou pas quoi que le président Aristide sont anti-américains. Il parle de web blanc-américain.
Pas du tout.
Pas quoi ça. Bon. Comme vous venez de le faire, monsieur l'ambassadeur, nous acceptons vos déclarations. Et les auditeurs de Radio Haïti vont aussi accepter ces déclarations. Je crois que c'est important. L'autre aspect, c'est que, monsieur l'ambassadeur, il y a un problème. Le problème est le suivant. Au lendemain de l'installation de Herta Pascal Trouillot, moi je me souviens vous avoir vu, vous, Bourique Chagé, dans votre voiture, rentrant au Palais National, et comme n'importe quel candidat à la présidence, et pas n'importe lequel, haïtien, acclamé par la foule. Et puis, on a l'impression que vous n'avez pas la même relation avec cette foule-là depuis lors. Est-ce qu'il se serait passé quelque chose, un mariage qui se serait terminé par une espèce d'acidité?
Oh, je crois pas.
Vous ne croyez pas?
Non, je crois pas du tout.
Non? Vous êtes aussi fervent avec les foules haïtiennes?
Oui, mais la foule, c'est une chose aléatoire, disons. On ne base pas la politique sur la foule, c'est les impressions, les sentiments effectifs du moment. Mais j'ai apprécié beaucoup ce que la foule, ce n'est pas la foule, c'est un peu, je crois, l'opinion en général, un peu en Haïti, que nous avons, à l'époque, que nous avons fait une contribution dans nos mesures à réouvrir les portes sur les possibilités ensemble avec les Haïtiens pour la démocratie.
Je ne vais pas vous taquiner. J'aurais pu vous taquiner sur le Conseil d'État, mais on va passer ça c'est le passé en temps de la page. Mais on arrive maintenant au point important. Je fais mon métier, messieurs, je fais mon métier, je me vois, regardez, c'est mon métier. Bon, on arrive maintenant à une question importante, monsieur l'ambassadeur. C'est la question de crédibilité. Comprenez bien. Nous avons écouté vos déclarations et je suis certain qu'elles vont avoir l'impact qu'elles méritent. Mais la question de crédibilité. Hein, c'est pas vrai? La question de crédibilité est liée à toute une histoire, monsieur l'ambassadeur. Vous avez dit, nous avons joué notre rôle. Mais vous êtes vu, vous, ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, Haïti, dans les West Indies, comme le premier personnage politique, avant le chef de l'État. On vous a même appelé un proconsul. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Est-ce que vous avez l'impression vraiment d'être le Deus ex machina, le magistère de la politique haïtienne?
Pas du tout.
Comme on
pas
le
du
voit,
tout.
Hein,
c'est une impression.
Vous pressez un bouton et la militaire répond. Vous pressez
pas
un
du
bouton.
Tout. Pas hein du tout. Pas du tout. C'est une impression, je crois, tout à fait démesurée. Et là, si je peux vous dire quelque chose, une des choses que je regrette beaucoup du période de l'époque des Marines, la présence des Marines en Haïti, et l'impression que ça a donné aux Haïtiens que les États-Unis sont capables de tout faire dans ce pays et qu'ils sont responsables pour beaucoup de choses qui se passent ici, et ce qui pas vrai du tout. C'est un effet psychologique, peut-être compréhensible, mais la réalité des choses sont tout à fait différentes. Ce que nous essayons de faire ici...
Il y avait quand même 7000 marines en Haïti.
Ce que nous voulons faire ici, c'est d'exprimer la politique en tant qu'ambassadeur de mon pays envers la démocratie, envers un état de droit, envers respect pour les droits humains, envers l'institutionnalisation de ce processus démocratique, envers des efforts d'augmenter le niveau de bien-être des gens de ce pays. Et donc, c'est tout simplement ça. Nous ne pouvons pas oublier, bien sûr, que nous sommes dans la région. Et nous sommes...
Une région qui est très proche du Panama, monsieur l'ambassadeur.
Et qui est également très proche des États-Unis.
Très bien.
Et que Haïti, comme toutes les autres îles dans la même région, jouit d'une relation, des relations spéciale particulières et importantes envers les États-Unis. Il faut souligner que la base de nos relations sont le respect mutuel et dans la souveraineté et dans la dignité.
Monsieur l'ambassadeur, oui. Et je crois qu'avec le président Aristide, il y a de plus en plus ces deux mots que vous avez vous-même soulignés au début, dignité et respect. Mais ce n'était pas le cas auparavant. On avait l'impression auparavant, en 87, je peux vous le dire, votre prédécesseur laissait l'impression qu'il pressait un bouton et puis hop, les généraux claquaient les talons. Un autre pressait un bouton. On avait cette impression-là, d'ailleurs. Lui aussi, il était un peu responsable de cette impression-là. Quand il s'est adressé à des journalistes et aussi à des militants de droits humains de Amnesty International ou America's Watch, il a très spontanément dit à propos des paysans, ce sont des gens qu'il faut que, qu'il faudrait que. Et puis, 15 jours avant ou 15 jours après, il y avait quelques paysans assassinés. Je crois que là, il y a un côté inconfortable, monsieur l'ambassadeur, des Haïtiens face à la pratique de vos prédécesseurs.
Oh, je ne peux pas parler pour mon prédécesseur, mais ce que je peux vous dire est que nous avons beaucoup renforcé nos engagements envers la démocratie.
Vous voulez dire que vous avez pris un autre tournant dans ce qui concerne Haïti?
C'est plutôt de renforcer le vent dans la voile qui mène le bateau un peu de la démocratie. Ici, peut-être en Haïti et dans tout le monde. Je crois que ça a corde bien avec la vague, la tendance et les tendances qu'on peut détecter mondialement en ce qui concerne la démocratie et les réussites et les expériences démocratiques en Amérique latine et en Europe de l'Est.
Vous voulez dire par là, monsieur l'ambassadeur, que depuis les événements qui surviennent en Europe de l'Est, la chute du mur de Berlin, l'attitude américaine serait moins crispée dans les pays comme le mien, comme les pays du tiers-monde, face à ce qui était l'idiosyncrasie anticommuniste. Vous êtes plus ouvert, vous êtes plus compréhensif, hein, c'est ça?
Et on reconnaît les changements effectués dans le monde dans la décennie. C'est une monde presque entièrement différente. Et je crois que les difficultés qu'on a eues dans le passé ne seront pas les difficultés dans le futur. Il y en a peut-être d'autres difficultés, mais il faut être conscient de ces changements. Et nous travaillons dans le sens de ces changements. Nous sommes pour le changement et nous sommes pour le bon sens. Et je crois que tous les deux s'accordent ici en Haïti.
Même si ce changement est prôné, guidé par un homme que vos journaux appellent, et peut-être pas à tort selon les informations recueillies de sources officielles, « leftist priest », un prêtre de gauche. Ça ne vous effraie plus, monsieur l'ambassadeur?
Pas du tout. Ce qui est important, le gauchiste, leftiste, centriste, droitiste, est le point essentiel, que le président est élu. Il est élu dans une élection crédible, observée par presque un millier des observateurs internationaux. C'est une des élections les plus observées dans l'histoire récente du monde. Et ça fait toute une différence, je crois, dans l'optique et dans les politiques. Le peuple a choisi. Et donc, la politique de mon gouvernement, qui a tellement prôné la liberté de choix et la démocratie, est là. Ça ne change pas avec les élections. Nous sommes tous sur le seuil, disons, de l'institutionnalisation de la Constitution et de la démocratie ici. Et donc, il est important de continuer à déployer des efforts en faveur d'une reprise de la démocratie et des institutions prévues dans la Constitution pour aider, accompagner, disons, le renforcement de cette expérience démocratique. Et nous, là, pour faire cela.
Très bien. Oui, mais monsieur l'ambassadeur, je m'excuse de revenir à cette campagne de presse. Je m'excuse d'ailleurs d'utiliser le mot campagne de presse. Mais vous comprenez, de ce côté-ci de l'Atlantique, on ne peut pas ne pas être gêné par l'image que projettent ces articles. Et surtout, l'impression que l'on a que cette campagne aiderait une certaine opposition haïtienne ici en Haïti et à l'étranger. Vous voyez, notre inconfort, étant donné ce que l'on a dit auparavant sur vos sympathies personnelles pour tel ou tel autre candidat, on peut s'imaginer... L'ambassadeur américain fait la grosse tête.
Absolument, absolument, Jean.
Est-ce que cette campagne n'aurait pas un lien avec une position ou un argument de l'opposition?
Et voilà comment j'analyse la campagne, si vous voulez, que je n'accepte pas la terme, mais on parle des effets, des impressions qui sont un peu exagérées. Mais pourquoi il ne faut pas oublier que les journalistes ont leurs propres informations et que ces informations découlent des sources ou bien aux États-Unis ou bien en Haïti. Et que parmi les sources, il y a des opinions partagées. Et on n'exclut pas la possibilité, certainement, des gens qui veulent poursuivre des intérêts un peu partisans en ce qui concerne ce qu'ils rapportent aux journalistes. Et on n'exclut pas ou bien des radicales de droite ou des radicales de gauche. Et ce qui peut-être est les intentions de ces opposants est de coincer un peu les relations entre les deux pays en encourageant et en attirant les attentions des autres sur des petits points plutôt négatifs que positifs. Peut-être leur intention est de réduire le marge de manœuvre, disons.
Du gouvernement haïtien.
De tous nos gouvernements, peut-être.
De vos relations, la relation entre le gouvernement haïtien et le gouvernement
américain. De coincer un peu, de réduire les options que le président Aristide et que nous, les États-Unis, nous sommes en face. Certainement, il y a inclus l'option qui est plus qu'une option, c'est la réalité des relations excellentes. Peut-être ça ne leur plaît pas. Peut-être il veut coincer les gouvernements à ce qu'il y ait des difficultés qui ne sont pas méritées, des difficultés artificiellement à monter. Pourquoi d'encourager peut-être une dynamique ici ou une dynamique aux États-Unis.
Une dynamique de chute du gouvernement d'Aristide.
Pas de chute du gouvernement d'Aristide, mais de réduire les options, d'encourager la considération, l'actualisation des options, disons plutôt confrontationnelles, qui n'est pas souhaitable et qui n'est pas du tout méritée par le ténor de nos relations.
Je comprends.
C'est un jeu classique.
C'est un jeu. Mais c'est un jeu qui se base peut-être sur des relations amicales que l'ambassade des États-Unis entretenait avant le 16 décembre, et peut-être après, qui sait, avec différents leaders du secteur démocratique qui, eux, ont échoué le 16 décembre. Si, par exemple, demain matin, vous deviez recevoir certains leaders à dîner à l'ambassade et que vous aviez à vous exprimer très clairement avec eux, qu'est-ce que vous leur auriez dit concernant ce que vous souhaiteriez voir chez les partis vaincus aux élections du 16 décembre? Qu'est-ce que vous auriez dit, monsieur l'ambassadeur?
Pas seulement les partis vaincus, mais tous les autres partis, même des membres des partis
vainqueurs. Qu'est-ce que vous auriez dit?
Il faut avoir la confiance. La confiance dans le futur de votre pays, ce qui est important est de vous tourner un peu, de vous orienter plutôt au futur qu'au passé. Oui,
il y a... Oubliez les rancunes électorales.
Pas, oubliez les rancunes, tournez page et dialoguer. Dialoguer, et le dialogue, ça englobe pas seulement des partis politiques précisément, mais tous les autres secteurs concernés. Parce que ce qui est important est que cette expérience démocratique réussit.
Attendez, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous diriez nommément à M. Bazin, M. Desjoies, M. François Latortue, M. X, M. Y, M. Z, Aristide a 5 ans à passer au pouvoir, pas un jour de plus, pas un jour de moins, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et c'est pas seulement aux partis politiques que je dis ça.
Vous diriez ça aussi aux autres constituants de la société civile.
La Constitution est là. La Constitution prévoit un mandat de 5 ans.
Très bien. Alors, justement, les autres constituants de la société civile, monsieur l'ambassadeur. Et il y a une partie de cette société civile qui vous touche de très près. D'abord parce que commerçants, industriels, investisseurs, hommes d'affaires sont en grande partie... dirigé vers le marché américain. Et pour beaucoup d'industries, il y a des commanditaires américains. Ils ont donc normalement la réaction de se tourner vers vous pour avoir une évaluation de la situation, des perspectives, des balises, un sondage sur les possibilités d'investissement, et etc. etc. À ce secteur-là, qui semble, depuis le 7 février, et même avant, un peu réticent, un peu trop prudent, un peu froid par rapport aux, au gouvernement d'Aristide. Il y a peut-être, comment dirais-je, une espèce de malentendu. Certains hommes d'affaires se disent « Ah, l'ambassade n'a pas encore dit son mot dans cette question-là. » Qu'est-ce que vous pensez de ces rapports ?
Tout d'abord, j'évite des caractérisations de n'importe quel secteur. Tous les secteurs en Haïti, comme tous les secteurs dans d'autres pays, incluent toute une gamme des opinions. Donc, je ne crois pas que c'est juste de caractériser le secteur, disons, le secteur privé, tout au fait qu'entièrement prudent ou réticent. Je crois qu'il y en a beaucoup de gens là-bas qui sont des bons tout à fait prêts pour la collaboration, pour le dialogue. Et ce que je leur dis, c'est la même chose que je vous dis et que je dis aux autres Haïtiens, il faut avoir la confiance. Ce qui est important, la réussite de cette expérience, parce que la réussite de cette expérience est votre réussite aussi. Que vous partagez des intérêts tout à fait communs avec le gouvernement, avec les autres composants de la société haïtienne, ce qui est le bien-être de ce pays, l'acceptation de ce pays, la fin de son isolement et des réformes que le gouvernement et que le pays doit mis sur pied.
C'est le message.
C'est le message.
Oui, mais attention, et vous avez parfaitement raison de ne pas mettre dans, globalement, de dire le secteur privé a tel psychologie ou telle réaction sociale, parce que dans le secteur privé, il y a beaucoup de comportements et de psychologie. Par exemple, je vous signalerai que dans le secteur privé, il y a des investisseurs, des hommes d'affaires, des industriels qui se sont davantage appuyés sur des pratiques qui n'étaient pas tout à fait correctes, des pratiques de contrebande, des pratiques de non-paiement d'impôts, des pratiques de monopole, des pratiques de petites portes derrière le panel national pour avoir des affaires louches. Et ce secteur-là a un certain comportement, tandis qu'un autre secteur existe qui, lui, serait plus ouvert à une société de droits, de règles et d'ordre constitutionnel. Hein, vous partagez cette différence, entre autres ?
Oui, toute une gamme des opinions et toute une gamme de pratiques. Mais moi, j'estime que la plupart des gens de commerce et gens d'industrie, si vous voulez parler d'eux, sont des gens prêts à collaborer. C'est des hommes honnêtes qui ne veulent que travailler, je crois. Comme tous les autres Haïtiens, ou bien dans le secteur public, dans les autres secteurs, les syndicats, le secteur paysan, je crois que le rêve des Haïtiens est d'avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent faire avec leurs mains, avec leur cerveau.
De produire.
De produire. Sans contraint artificiel, sans l'oppression politique, d'avoir devant eux la liberté d'agir dans le bon sens pour le bien-être de ce pays. Et ce qui est important, de reconnaître ça, et de reconnaître ça dans le dialogue, et de se pointer, se orienter plutôt au futur. Essayer à tourner la page, oui, peut-être, certainement. Il y a la question de justice, les grands dossiers sont là déjà, on travaille là-dessus. Je crois prochainement il y aura des conclusions aux enquêtes et que les procès en justice vont être amenés selon la loi, selon la Constitution, dans un état de droit. Mais en dehors de ça, il est important de considérer toutes les autres questions qui vous confrontent et de se solidariser sur les grands dossiers. Par exemple, quelle serait la stratégie économique
les 5 prochaines années.
Pour les 5 prochaines années.
À votre avis, ces questions fondamentales-là doivent être abordées dans le dialogue.
Je crois,
Et vous pouvez aider avec les amis que vous avez dans ce secteur privé, commerçant, industriel, investisseur.
Certainement, comme dans nos relations avec les autres secteurs, nous sommes là un peu pour faciliter un peu le dialogue si on a besoin. Si on parle des investissements, si on parle des activités commerciales ou industrielles, ce qui est important est de tracer les grandes lignes de la politique sur la finance et sur l'économie. Pour donner un sens de direction aux gens qui investissent avec leur propre argent, un argent qui se trouve en risque, bien sûr, comme tous les autres investisseurs. Donc, de leur donner un sens de direction, donner un sens de rassurance,
de sécurité
et d'une collaboration. Ce que j'estime est le sens et l'esprit de ce gouvernement.
À propos de l'investissement, moi je vous signale que on a craint, avant et après le 7 février 91, une rétraction des commandes dans le secteur de sous-traitance par peur du gouvernement d'Aristide. Il y a eu une ou deux fermetures d'usines. Est-ce que c'est une tendance?
Autant que je sache, et je crois que la décision a été prise bien avant les élections. En ce qui concerne les autres, je crois qu'ils restent là. Oui, il y a une difficulté, mais c'est une difficulté plutôt orientée vers la condition de notre économie aux États-Unis.
Due
à la récession. Et un peu due à la nature de la production dans la région. Le genre des investissements, le genre de production est un... des productions très sensibles au moindre tremblement dans les conditions économiques dans le monde. Et c'est une forme de production qu'on peut réorienter vers des facilités dans des autres pays. Donc c'est un marché de production très concurrente. Mmh. Et donc il faut avoir sens, une appréciation de ça, la sensibilité, disons, du marché de production. Et de déployer des efforts, de garder la compétitivité du marché haïtien en face à la concurrence des autres pays dans la région. Haïti bénéficie de pas mal des avantages en ce qui concerne les exportations aux grands marchés aux États-Unis et maintenant au biais de la CEE et la convention Lomé. Je crois aussi un certain nombre des avantages en ce qui concerne le marché en Europe.
Là, monsieur l'ambassadeur, vous êtes en train de me coincer parce que vous êtes sur un domaine où moi, mes dossiers ne sont pas à jour. Je ne saurais vous dire si cette question de compétitivité dont vous parlez est avantageuse pour nous ou désavantageuse pour nous. Ça, c'est une autre histoire. Je crois que vous auriez intérêt à parler à nos économistes. Mais vous parlez à... vous évoquez la convention de Lomé, le marché européen. Monsieur l'ambassadeur, entre vous et moi, et franchement, rapidement, est-ce que il n'y a pas une petite compétition entre Raphaël Dufour et Alvin Adams?
Je ne crois pas du tout.
Entre la France et les États-Unis?
Pas du tout. Nous sommes tous ensemble sur le terrain d'Haïti. Nous partageons la même vision démocratique en ce qui concerne l'expérience menée ici en Haïti. Nous sommes tous nos deux des camarades de ce processus. Nous avons nous-mêmes et la France déployé des efforts en faveur de ce processus. Et je ne vois pas aucune concurrence entre les deux. Haïti est un terrain suffisamment en besoin de toutes les ressources menées par tous les amis de ce pays, qu'il ne s'agit pas d'une concurrence. Pourquoi une concurrence? C'est plutôt l'amicale de pays amis d'Haïti.
L'amicale des amis d'Haïti. Vous êtes certain que lorsque la moustache de Raphaël Dufour frémit, vous n'avez pas quelques gouttes de sueur froide au front? Vous, monsieur l'ambassadeur? Pas du tout.
Pas du tout.
Ah, et il est sincère, voir des images. Et nous le croyons, certainement. Bien, évidemment, monsieur l'ambassadeur. Bon, il y a bien sûr votre attitude à vous en ce moment. Vous dites, 5 ans, il faut aider, il faut y aller. Mais est-ce que, comme toujours, vous ne mettez pas des si? C'est comme on dit, votre aide, votre soutien avec strings attached. Quels sont ces strings? s'ils existent.
On ne
Quels sont ces liens?
On ne parle pas des strings, on ne parle pas tellement des conditions, on parle de la bonne gestion de ressources contribuées par nos contribuables. On parle de points de référence posés par notre congrès, représentant du peuple
américain.
Nous avons des politiques comme tout autre pays. Haïti sera très prochainement en mesure de trancher sa propre politique. En ce qui concerne l'économie et finances, nous avons le nôtre. Rien n'est plus naturel. Donc, qu'on exprime les visions préférentielles à notre avis et en dialogue là-dessus.
Donc, pas de sine qua non. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Il y a certainement des visions que nous partageons et des intérêts, des points très, très clairs, très nets dans notre politique. Je viens de vous parler un peu de la situation des droits de l'homme, respect de la loi, état de droit, institutionnalisation de la Constitution, de l'expérience démocratique, très très importante.
Vous avez une opinion sur la petite querelle entre l'exécutif et le législatif?
Je n'ose pas, ce n'est pas à moi passer de commentaires en ce qui concerne un débat à l'intérieur.
Vous n'intervenez pas dans ces affaires intérieures de la politique haïtienne?
Pas du tout.
Vous n'intervenez pas?
On exprime...
Vous pas mettez bouche ou non ça? C'est ça.
On exprime quand nous sommes demandés l'opinion, un point de vue, mais certainement pas. On passe pas les propos
très bien.
Comme ça.
Bon, très bien. Ça, écoutez, partout. Et enfin, la chose qu'il faut dire pour terminer, monsieur l'ambassadeur, c'est que j'ai eu personnellement l'impression, à la lecture de certains articles et aussi à l'impression générale, c'est que après le 7 janvier, la réaction du peuple au coup d'État à La Fontan avait été un tout petit peu inquiétante pour vous. Ça vous avait inquiété, cette réaction-là. Quel est votre sentiment?
Notre sentiment en ce qui concerne le déchoucage, par exemple, déchoucage des innocents, parce qu'il y en a eu. L'annonciature, par exemple, a été déchouquée. Il y a pas mal des établissements, je crois, on peut estimer tout à fait innocents. Mmh. Il y a pas mal des locaux, par exemple, l'ancien cathédrale de Port-au-Prince. Tout est tout à fait regrettable, ça. Mmh. Mais il faut quand même apporter à la table de cette analyse un sens recul par lequel on peut estimer que la situation actuelle est beaucoup plus favorable, malgré
beaucoup les... Beaucoup plus sereine.
Sereine, et calme, et que la passation de pouvoir a bien fait son dérapage, et normalement, ce qui est un premier, je crois, pendant toute l'histoire de ce pays. Donc je retiens les points plus importants, ce qui est la passation dans le calme du pouvoir et le démarrage d'un gouvernement démocratique dans le bon sens qu'on peut constater actuellement.
Mmh. Ce qui veut dire, monsieur l'ambassadeur, pour finir, que le bilan est globalement positif malgré des saisons où vous ne préférez pas jeter une lumière trop crue. C'est bien cela. Ou plutôt gade sac pral passé, plutôt gade bac sous sac qui pas de fort plaisir, non, sac t'es passé depuis cette
Oui, je m'oriente vers le futur, avec une vision positive. Et je me rappelle une phrase de Franklin Roosevelt qui a prononcé pendant la grande dépression aux États-Unis. Il n'y a rien à craindre que la crainte en soi-même. Et il est important de retenir ce sentiment, d'éliminer, de mettre à l'arrière les craintes et d'agir plutôt sur les espoirs. Parce que les espoirs sont là. J'estime que la porte est ouverte pour les dialogues et pour la collaboration de tout secteur avec le gouvernement. Et que, bien qu'il y ait des difficultés en ce qui concerne la crise électrique, bien qu'il y ait beaucoup de chômage, que globalement, la perspective est positive. Vous avez un gouvernement élu, un gouvernement qui porte un mandat important. Des institutions de la Constitution sont en train d'être rodées sur leurs pieds. Mm-hmm. Et que l'expérience démocratique s'approfondisse. Et que la passation que je viens de vous dire, la passation de pouvoir, était faite dans le calme. Et que les ministres choisis selon la Constitution sont des ministres avec un sens de leur métier, un sens de leur particularité,
de leur spécialité, de leur responsabilité.
Et de leur responsabilité. Et on commence à tracer des grandes lignes politiques que peut mener ce pays à ce dont il a des espoirs pour longtemps, de fournir un sens d'encouragement, d'engagement, engager des gens dans la vie nationale, de mobiliser des gens des efforts communs avec le gouvernement et les institutions de la Constitution pour à ce que ce pays peut réaliser son potentiel d'être un point de lumière dans la région, un point de sagesse étant donné l'ancienneté de ce pays comme membre de la famille des nations indépendantes et des républiques. Et donc, c'est un peu comme ça que je vois Haïti actuellement, sur le seuil d'une renaissance, mais une renaissance qu'il faut prendre un peu de temps pour tracer les politiques.
Vous êtes patient.
Je suis patient et toujours de bon sens. Et c'est ça, si j'ose, ça donne un peu de conseil, de garder dans le calme.
Pas de coup d'État, Makoud, Zinglando.
Certainement pas.
Vous comprenez les Zinglando?
Certainement, je comprends les Zinglando.
Pas question, et
comme notre vice-président a précisé lors de sa visite au mois d'août, pas de coup d'État, pas de meurtre, pas de menace. Il ne serait pas question de ça. Je crois que le mariage entre le président Aristide, le gouvernement de René Préval et l'institution des forces armées d'Haïti sont en cours, comme le mariage, les autres mariages qui est également en cours.
Oui, Chagé, à l'ouverture de cette interview qui se termine malheureusement, a employé deux expressions d'Aristide, dignité et respect. Et voilà qu'à la clôture de cette interview, il emploie une autre expression d'Aristide, le mariage. Dernière question. Combien de temps allez-vous rester en Haïti comme ambassadeur?
Hein? Normalement, prévision pour un ambassadeur à l'étranger, 3 ans.
Weather Report.
3 ans.
3 ans.
3 ans.
Vous avez déjà un an et demi.
Un an et demi. Je ne compte pas les jours, les mois.
Il vous reste un an et demi, en gros.
Certainement. J'espère. Je suis à la disposition de mon président.
Bonne chance.
Merci beaucoup, Jean.
Et à bientôt.
Merci. Et à la prochaine.